VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 26 octobre 2015, en direct de Washington, Claire Morin-Gibourg. Tout d'abord, les titres. Dimanche électoral sur le continent, on votait en Côte d'Ivoire, en République du Congo et en Tanzanie. Vote donc dans le calme en Côte d'Ivoire pour le premier tour de l'élection présidentielle.
Les élections se sont bien passées, il n'y a pas eu... En tout cas, dans les centres où je suis passé, en tant qu'observateur, je n'ai pas eu d'incident majeur.
C'était M. Yacouba, observateur et membre de l'ONG Sauvetage. Notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso, est sur place. Nous l'entendrons en direct dans ce journal. Vote également au Congo-Brazza pour le référendum d'un projet de nouvelle constitution qui permettrait à Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016.
Tous sont unanimes pour dire que les populations sont restées chez elles en boudant les bureaux de vote. Elles vaquent à leurs occupations habituelles.
Guy Romain Kifoussia, porte-parole du FROCAD. Et puis les Tanzaniens se sont également rendus aux urnes dans le calme hier dimanche pour des élections très indécises qui pourraient mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis l'indépendance. Et une fois n'est pas coutume, nous terminons notre édition par l'économie et les sports. Mais voilà, tout d'abord, le journal.
Alassane Ouattara. 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 Alassane Ouattara.
Les Ivoiriens ont donc voté dans le calme hier dimanche pour une élection présidentielle cruciale que le président sortant Alassane Ouattara espère gagner dès le premier tour face à une opposition divisée. Tatiana Mosso est notre envoyée spéciale à Abidjan. Tatiana, comment s'est passée la journée d'hier ? Beaucoup de bureaux de vote ont ouvert avec retard. Tous les électeurs ivoiriens ont-ils pu aller voter ?
Alors écoutez, c'était effectivement une journée plutôt calme, voire un petit peu, il y avait un petit peu d'appréhension parce que dès le matin, il y avait des orages sur Abidjan et il faut savoir que la pluie peut être un ennemi électoral ici, puisque les bureaux de vote ont ouvert très tard parce qu'ils n'avaient toujours pas reçu le matériel et surtout, les électeurs ne se sont pas précipités aux urnes, ce qui fait que beaucoup d'observateurs, dès le matin, se demander si le taux de participation serait élevé ou non.
Un peu plus de 6 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales. Comme vous l'avez dit, des retards d'une ou deux heures pour l'ouverture des bureaux de vote ont été fréquents, et même jusqu'à 5 heures pour un bureau à Boaké. Et alors que la participation avait frôlé les 80% en 2010, dans le centre d'Abidjan, le taux de participation à la mi-journée avoisinait les 45%. Mais à Youpogon, quartier réputé pro-Bagbo, vers 17h, le taux de participation se situait seulement à 25%. Au collège William Ponty, le plus gros bureau de vote du pays, Tatiana, vous vous êtes rendue à Youpogon, à Abobo, à Williamsville. Que sait-on sur ce taux de participation aujourd'hui ?
Alors écoutez, jusqu'à hier soir très tard, la commission électorale qui compilait tous les résultats des différents bureaux d'Abidjan d'abord, puis de l'intérieur du pays, n'avait toujours pas sorti de chiffres officiels. Par contre, on parlait des gros centres, dont vous l'avez déjà mentionné, celui de Youpogon, mais on a pu aussi observer au plateau des participations qui pouvaient aller à peu près jusqu'à 60-70% selon les zones, mais il y a des zones où c'était la participation était très basse, comme à Bingerville, qui se trouve à 18 km en dehors d'Abidjan, où là, ils avaient à peine 20% de participation. Donc, On attend de savoir aujourd'hui, dans la matinée, ce que dira la commission électorale par rapport à ce taux de participation qui devrait donner un visage assez, assez net de cette élection présidentielle. Rappelez-vous que le premier tour, en 2010, c'était 80% de participation, un taux record.
Alors certains observateurs, des ONG, affirment qu'il faut des élections crédibles, qu'elles sont fondamentales pour tourner définitivement la page des violences meurtrières de 2010. Beaucoup de membres de la société civile ivoirienne sont d'ailleurs enregistrés comme observateurs dans ces élections et vous en avez rencontré certains.
Effectivement, hormis les membres de l'Union africaine, des délégations de la CDAO, il y avait effectivement des observateurs nationaux tels que M. Yacouba, que nous avons pu rencontrer en fin de journée hier dans un bureau de Cocody. Je vous propose de l'écouter.
Les élections se sont bien passées. Il n'y a pas eu, en tout cas dans les centres où je suis passé en tant qu'observateur, je n'ai pas eu d'incident majeur. Donc dans l'ensemble, je dirais que tout s'est bien passé. Les gens sont venus voter calmement et ils sont retenus calmement.
Mais est-ce que, de ce que vous avez observé aujourd'hui, la participation vous semble élevée?
Non, selon les bureaux de vote, parce que depuis le matin, je suis en train de sillonner, j'ai constaté qu'il n'y a pas vraiment d'affluence par certains endroits. Bon, dans d'autres bureaux de vote, le matin il y avait des personnes qui étaient là. En tout cas, il y avait pas mal de personnes dans certains centres. Lorsque je suis revenu dans l'après-midi, je vois que des personnes viennent à prendre goût.
Et puis des élections, Tatiana, sous le signe de la modernité, chacun des 19 000 bureaux de vote est doté d'une tablette numérique avec la liste actualisée de chaque électeur. Une tablette qui reconnaît même les empreintes digitales de chaque électeur. Un outil évidemment censé sécuriser le processus démocratique. Est-ce que cette nouvelle technologie a pu être utilisée correctement dans chaque bureau de vote?
Écoutez, l'une des données importantes que la CEI, la Commission électorale indépendante, a pu communiquer hier, c'est qu'il y avait au moins 30% des tablettes qui n'avaient pas été utilisées. Nous en avons été directement témoins, notamment à Yopougon, où ils n'ont jamais reçu, dans un bureau en particulier, ils n'ont jamais reçu de tablettes, donc ils ont fait le vote manuellement. Sécuriser ce scrutin, c'était le plus important, et c'est ce que nous rappelle aussi cette superviseure que nous avons rencontrée à William. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Ici, nous sommes au groupe scolaire BAD à Williamsville. Bon, tout se déroule normalement. C'est au début, on a eu un peu de problème avec l'arrivée de la morpho tablette. La morpho est venue vers 8 heures. Ça fait que le travail a commencé à partir de 8 heures. Voilà ce qu'on devait faire depuis 7h00. Tout se déroule normalement, il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous avez eu des soucis avec la tablette électronique? On a vu dans d'autres bureaux que des fois elle buguait, il fallait parfois la rallumer, il y avait des empreintes qui ne passaient pas. Est-ce que vous avez observé ce genre de choses aussi chez vous?
Bon, c'est l'allumage, on revenait dessus au début, mais avec actuellement il n'y a plus de problème, ça passe. Ça passe, les empreintes passent. Il n'y a pas encore eu de problème avec la tablette jusqu'à présent.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne? C'est quoi le but de cette tablette dans le processus de vote classique?
Bon, elle est encore plus pratique, parce que avec quand on prend chose, on valide sur la carte d'électeur, voilà, toutes les données sont indiqués sur la tablette. Voilà. Donc, toute l'identité du lecteur est vérifiée. Et puis, après le vote, voilà, le décompte est déjà fait sur la tablette. C'est pratique.
Pourquoi c'est pratique, cette tablette?
Bon, parce que c'est informatisé. Voilà.
Est-ce que, selon vous, ça va éviter que des gens puissent voter deux fois?
Voilà, ça va éviter, parce que ça mentionne déjà si l'électeur a déjà voté ou bien si c'est authentifié. Bon, ça marque tout, ça dévoile déjà les fraudes.
Et une dernière question, Tatiana, a-t-on une idée de quand nous allons pouvoir avoir une idée des résultats?
Alors, on attend des résultats provisoires qui devraient être communiqués ce lundi, dans la journée, avec la compilation effective de tous les bureaux, au moins à Abidjan. Les résultats de la diaspora devraient tomber très vite, et normalement, mardi, au plus tard, le mardi soir ou mercredi matin, les résultats définitifs du premier tour devraient être connus.
Merci beaucoup, Tatiana. Nous vous retrouverons tout au long de la journée dans nos différentes éditions. Et ici aussi, aux États-Unis, les Ivoiriens de la diaspora votaient donc pour élire leur prochain président. Georges Léonard Sagnot est allé à leur rencontre.
Le vote s'est passé sous la supervision de plusieurs observateurs de partis politiques et d'un délégué du département d'État américain. Parmi les électeurs, Mme Diane Nzi, représentante du FPI, un parti de l'opposition à ses bureaux de vote. Ce qui est important, au-delà du vote, c'est le pays.
Ça se déroule bien. Les gens sont organisés. J'exhorte tout le monde à voter. Voilà, donc, dans l'humilité, juste pour la Côte d'Ivoire.
Dominique Grant, représentante du RHDP, sollicite plutôt une victoire dès le premier tour.
Tout se passe bien.
Donc, vous avez l'espoir?
Oui, on a l'espoir. J'espère qu'on ne va pas passer au deuxième tour.
Bien que les électeurs fussent rares dans la capitale fédérale, cela n'a pas empêché la commission électorale d'y ouvrir deux bureaux de vote. Yves Tadé, président du bureau de vote numéro 1.
Nous avons commencé les opérations de vote depuis ce matin à 8 heures et les choses se déroulent bien. Bon, je ne saurais pour l'instant vous donner de taux de participation, mais je pense que ça se déroule bien.
Michel Acadia, président du bureau de vote numéro 2, nous situe sur les enjeux et les quelques difficultés rencontrées au cours du vote.
Les premières difficultés qui sont apparues étaient plutôt au nom des femmes mariées. On s'est rapidement rendu compte qu'ils ont plutôt utilisé les noms de famille, c'est-à-dire famille de jeunes filles, nom de jeunes filles, en lieu et place du nom de mariée, ce qui fait qu'il faut plutôt chercher dans le nom de jeunes filles plutôt que dans le nom de... ce qui a réglé la situation très rapide.
Quant à cet autre électeur...
Moi, c'est M. Dick Alexandre.
OK. Alors, que faites-vous là, ce matin?
Je suis venu accomplir mon acte citoyen.
Avez-vous voté?
Oh, j'ai l'espoir, parce que au-delà du vote symbolique que j'ai eu ce matin, j'ai appelé la Côte d'Ivoire à prendre l'exemple de ce qu'on appelle démocratie. La démocratie, c'est ce que nous voyons présentement.
Depuis l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, Georges Léonard Sagnot pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Direction la République du Congo à présent, et les Congolais semblent avoir largement boudé hier dimanche le référendum contesté pour un changement de constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter une nouvelle fois à la magistrature suprême, lui qui cumule plus de 30 ans au pouvoir. Groupés en plusieurs coalitions, les opposants au chef de l'État avaient appelé à boycotter ce qu'ils ont qualifié de coup d'État constitutionnel. Très peu d'électeurs des quartiers sud de la capitale et des régions du sud-ouest se sont rendus aux urnes, alors que l'opposition se félicite de cette faible participation. Le président Denis Sassou Nguesso reconnaît à ces populations leur droit de s'être abstenus. De Brazzaville, la correspondance de Nguélane Goussou.
À Madibou, Makelekele et Mfilou, quatre arrondissements de Brazzaville récemment secoués par les troubles. Suivant de près le mot de boycott lancé par l'opposition, Guérome Kinfoussia, le porte-parole du FROCAD, fait le point.
Sur l'ensemble du territoire national, nous avons positionné nos militants. C'est à l'intérieur, à Pointe-Noire, à Delizy, Nkaï, Ouesso. Tous sont unanimes pour dire que les populations sont restées chez elles en boudant les bureaux de vote. Elles vaquent à leurs occupations habituelles. Voilà. Donc ce qu'il faut noter déjà, c'est que notre peuple vient de gagner une victoire éclatante. Le peuple vient de paralyser tout le pays qui n'a pas été voté. Ça, il faut le noter. Cette victoire, nous allons l'amplifier en continuant la désobéissance civile jusqu'à ce que cette mascarade électorale soit retirée.
Discrètement, quelques-uns sortent pour aller voter pour la paix.
Bon, je les invite à venir voter parce que on doit vivre dans la paix. C'est tout.
Simone Lubienga, la maire de Bakongo, salue le courage de ceux qui sont allés voter.
c'est un libre arbitre pour que chacun aille au vote. Que ceux qui veulent aller voter, aillent voter.
Après avoir voté lui aussi à Bakongo, le président Denis Sassou Nguesso a reconnu que ceux qui n'avaient pas voté étaient aussi des Congolais.
Cela peut s'assimiler à l'abstention. Encore que ce serait mieux que cela soit exprimé par un non dans les urnes. Ça aurait été mieux. Ainsi, on aurait compris que une partie du peuple a pu dire oui et une autre a pu dire non. Et si cela peut s'assimiler à l'abstention, nous notons que c'est l'abstention, mais c'est toujours une partie du peuple congolais qui se sera exprimée ainsi.
Dans les départements du sud-ouest traditionnel, bastion de l'opposition, de nombreuses populations ont préféré rester chez elles, tandis que dans le nord, un vote massif a été signalé. Nguela Nguso, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Et les résultats officiels de ce référendum ne devraient pas être connus avant plusieurs jours. Les Tanzaniens se rendaient également aux urnes dimanche pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux lors d'un scrutin très indécis qui pourrait mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis l'indépendance dans le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Est. Henri Francisque.
De longues files d'électeurs se sont formées plusieurs heures avant l'aube dans la capitale économique Dar es Salaam, où les bureaux de vote ont ouvert comme prévu à 7 heures, heure locale. Quelques 23 millions de Tanzaniens sur 52 millions d'habitants vont choisir le successeur de l'actuel chef de l'État, Jakaya Kikwete, qui ne se représente pas conformément à la Constitution après avoir achevé son second mandat. La course à la présidence se joue entre John Magufuli, 55 ans, du parti au pouvoir, le CCM, considéré comme le favori parmi les 8 candidats, et l'ex-premier ministre Edward Lowassa, 62 ans, un vétéran du CCM, désormais à la tête de la coalition d'opposition Ukawa. L'élection s'est déroulée dans le calme, selon la police. Calistan Kone a attendu plus de 2h30 son tour pour voter à Mbuyuni. Malgré cela, elle trouve que ces élections ont été bien organisées.
Tout va bien dans ce bureau de vote. Les gens en font la queue patiemment et attendent d'entendre leur nom pour aller voter.
Certains observateurs craignent que ce scrutin annoncé comme particulièrement serré ne débouche sur les violences post-électorales, car la suprématie du parti au pouvoir, affaibli par des dissensions internes et des scandales de corruption, n'a jamais été autant menacé. Le président Jakaya Kikwete avait ordonné à la police de renforcer la sécurité pour garantir que le vote se déroule dans le calme.
Au Mali, les attaques terroristes continuent dans les régions nord du pays. Après celle de vendredi dans la région de Tombouctou, hier, une nouvelle attaque a eu lieu dans le cercle de Tessalit, dans la région de Kidal. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Après l'attaque d'un checkpoint à Tombouctou par des hommes non identifiés qui a occasionné la disparition des militaires maliens, un autre a été blessé et un véhicule emporté. Les terroristes viennent encore de frapper à Tessalit. Bilan 2 morts, un chef de famille et son épouse sont les victimes. Les soldats tchadiens de la MINUSMA venus au secours, leur engin a sauté sur un explosif faisant 2 blessés. Pour les Maliens, le gouvernement doit changer le fusil d'épaule par rapport à la situation dans la région de Kidal.
Si nous continuons sur cette lancée, il sera très difficile pour nous de pouvoir s'installer. Il s'agit de ces fonctionnaires qui y vont, de ces ONG qui y vont. Il sera très difficile pour nous de s'installer à Kidal parce que Kidal est devenu un terrain politique, un terrain économique pour les narcotrafiquants. Ce sont des gens qui Kidal, mais pour des intérêts économiques, c'est-à-dire la vente de la drogue, le passage de la drogue, les trafics, etc., etc.
Toutes les deux attaques de Tombouctou et Kidal se sont passées alors que le chef de l'État malien était en visite d'État à Paris. Une visite qui est source d'espoir selon Amadou Barry, informaticien.
Après cette visite, je pense qu'il y aura, l'administration malienne va reprendre à Kidal. Il y aura la réouverture de l'école à Kidal, on en a besoin. Kidal fait partie de Bamako et du Mali. Les gens ont faim à Kidal. Malgré qu'ils sont soutenus par les pays voisins, ils arrivent à faire les échanges transfrontaliers d'une manière frauduleuse, ça. On va résoudre ce problème après, mais il faut que l'administration malienne et la malienne soient prennent une autonomie totale sur Kidal.
La situation ni paix ni guerre dans le septentrion malien doit prendre fin avec le retour de l'armée sur l'ensemble du territoire. C'est du moins l'avis de Aljouma Guindo, enseignant.
Ah, pour l'armée malienne, bon, là, j'ai essayé de un peu de réserve sur ça. Mais c'est ce qu'on vit. Parce que quand on parle d'administration, il faut obligatoirement l'armée. Mais c'est pas se faire ça, les intégrations. Comme il parle d'intégration, c'est l'armée. Les djihadistes qui se sont déguisés en truc de Touareg façon là, ils sont venus sur le territoire. Ça, c'est très clair. Donc, de faire attention, d'aller avec, beaucoup d'intelligence, quoi. C'est très clair. Pour l'armée malienne. Parce qu'il n'y a plus à avoir de pièges. C'est ce que moi, je vois.
Aujourd'hui, la rentrée des classes n'a pu être effective dans la région de Kidal. Car les enseignants demandent une garantie sécuritaire au gouvernement qui veut tout faire pour avoir une gestion consensuelle dans la région de Kidal. Car l'expérience du passé leur a servi de leçon. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et le reste de l'actualité à l'international, crise migratoire en Europe. Les pays concernés par un afflux massif de migrants arrivant en Europe par la route des Balkans ont décidé hier soir de créer 100 000 places d'accueil pour mieux juguler cet afflux, dont 50 000 places en Grèce. Une procédure préalable indispensable à la répartition des migrants au sein des 28 pays de l'Union européenne. Les migrants économiques seront, eux, rapatriés. 4 personnes ont été interpellées au Bangladesh dans l'enquête sur le meurtre fin septembre d'un humanitaire italien qui avait été revendiqué par le groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé la police locale. Si cette revendication est avérée, il s'agirait de la première attaque du groupe djihadiste au Bangladesh. Ce meurtre avait été suivi moins d'une semaine plus tard par celui d'un Japonais abattu dans la ville de Konya par des hommes circulant à moto. Le groupe État islamique avait alors revendiqué cet assassinat sur Twitter. Et puis les autorités haïtiennes, les observateurs internationaux et les électeurs se sont réjouis dimanche du bon déroulement des élections générales en Haïti, permettant aux citoyens qui se sont déplacés nombreux de voter, notamment pour choisir leur futur président. Les 5,8 millions d'Haïtiens votaient pour le premier tour de l'élection présidentielle et le second tour des législatives. C'est voilà pour notre journal. C'est notre journal spécial élection et quelques brèves internationales. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil à présent sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce matin avec Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement va dégager plus de 46 milliards de francs CFA pour la construction d'un parc technologique numérique au Sénégal, indique l'APA. La BAD estime qu'au Sénégal, la proportion de jeunes travaillant dans l'industrie informatique est plus forte que dans les autres secteurs. Ce projet devrait engendrer la création de 35 000 emplois directs et 105 000 emplois indirects d'ici à 2025. Il permettra de moderniser le gouvernement, de soutenir la recherche universitaire basée sur les technologies et de simplifier la fourniture de services aux Sénégalais. Le gouvernement burkinabé va débloquer 7 milliards de francs CFA pour le financement de projets des jeunes et des femmes, selon le ministère de l'Économie et des Finances. Ce financement entre dans le cadre du programme socio-économique d'urgence de la transition adopté en mars dernier. L'enveloppe est destinée aux jeunes entrepreneurs et exploitants du pôle de croissance de Bagré, aux jeunes du secteur informel et aux femmes entrepreneurs. Près de 19 000 dossiers ont été reçus. Le programme vise la création de 10 000 unités économiques qui généreront près de 30 000 emplois, la construction de 75 complexes scolaires, la réalisation d'infrastructures universitaires et la construction de 80 centres de santé et de promotion sociale.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie. Place à notre page sport ce matin avec Élisée Oumpatine. On démarre par le championnat d'Afrique des Nations et on connaît pratiquement tous les qualifiés pour la phase finale qui aura lieu au Rwanda en janvier prochain.
Oui, 14 sur 16 puisque deux matchs ont été reportés. Congo, Cameroun et Ghana, Côte d'Ivoire. Ces deux matchs seront livrés le week-end prochain. Alors, 10 équipes se sont qualifiées ce week-end, la plupart à l'extérieur. Le Nigeria, fort de sa victoire de 2-0 à l'aller face au Burkina Faso, est allé chercher le nul 0-0 à Ouagadougou. Qualification du Niger qui est allé faire un but partout à Lomé face au Togo. Le MENA s'est déjà imposé à l'aller 2-0. Ça passe pour l'Éthiopie qui a renversé le Burundi. Victoire 3-0 après avoir perdu 2-0 à l'aller. Ça passe aussi pour le Zimbabwe, vainqueur du Lesotho 3-1. Même cas de figure pour la Zambie devant Mozambique. Qualification sans problème de l'Ouganda, vainqueur au Soudan 2-0 à l'aller comme au retour. Et dans un match sans enjeu, le Maroc a battu la Tunisie 3-2, les deux équipes étant déjà qualifiées.
Le Mali et la Guinée seront aussi présents au Rwanda.
Exactement, les deux équipes qui ont obtenu leur qualification à l'extérieur. Le Mali, auteur d'un match nul à Nouakchott face à la Mauritanie, 1-1. Il avait emporté chez lui à Bamako 2-1. La Guinée, de son côté, s'est difficilement qualifiée à Dakar devant le Sénégal. Vainqueur à l'aller 2-0, le Sili National doit sa qualification au but marqué à l'extérieur puisque battu 3-1 par les Lions de la Teranga. Difficile qualification également pour le Gabon, battu chez lui 1-0 par le Tchad. Au match retour, le Gabon, heureusement pour lui, s'est déjà imposé à l'aller 2-0. Même scénario pour l'Angola, vainqueur de l'Afrique du Sud 2-0 à l'aller. Les Palancas Negras ont été battus à domicile 2-1, une défaite sans conséquence.
Coupe du monde de football des moins de 17 ans au Chili et le Mali qui rejoint le Nigeria en 8e de finale.
Oui, les Aiglons ont battu le Honduras 3-0. Avec 2 victoires et 1 nul, les Maliens terminent en tête de leur groupe devant l'Équateur, la Belgique et le Honduras. Et puis, le Maroc représentera l'Afrique au prochain Jeux paralympiques de 2016 à Rio. L'équipe du Maghreb a remporté à Douala la Coupe d'Afrique de ses 6 foot réservée aux non-voyants édition visuelle, en battant donc le pays hôte en finale. 6 nations ont pris part à cette édition.
Rugby à présent, Nouvelle-Zélande, Australie sera l'affiche de la finale de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Angleterre et au Pays de Galles.
Les deux équipes ont validé leur billet pour la finale en écartant l'Afrique du Sud et l'Argentine. Les Kangourous ont eu raison des Pumas 19-15 au terme d'un match intéressant. Les All Blacks, tenants du titre, eux, ont dû s'employer face aux Springboks, victoire 20-18. L'Afrique ne sera donc pas en finale. Une finale 100% hémisphère sud de cette 8e Coupe du Monde de rugby. Ce sera samedi prochain à Twickenham. Les deux équipes ont déjà gagné 2 fois chacune le trophée, mais sans jamais se retrouver en finale. Et puis en tennis, fin de parcours pour Kevin Anderson au tournoi de Vienne. Le Sud-Africain 11e mondial a été éliminé par l'Américain Steve Johnson en quart de finale. Anderson a perdu en 3-7.
Merci Élisée.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
I'm sipping on you like some fine wine, though. And when it's over, I press rewind, though. Ay, you talking bands, girl, I got it. Benjamin's all in my pocket. I traded in my truths for some Robins. You playing Batman, Fetty's gonna rob him. Ay, I got a Glock in my Rari. Ay, 17 shots, no 38. I got a Glock in my Rari. 17 shots, no 38. Everywhere, and if somebody got a problem.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Michel Joseph était à la réalisation. Jonah Cummings était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.